Je pense que ce matin, il y a beaucoup de choses de dites et on peut arrêter le message. Parce que franchement, le Seigneur, il parle à travers les uns et les autres. Et il a parlé à travers l'Église, à travers les partages et les sujets que nous avons partagés. Vous voyez, la logique humaine veut que toujours la personne qui est devant, qui apporte, on oublie en fait que la personne qui est devant vous, et s'est déjà nourrie parce que vous avez apporté. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation, si on appelle ça méditation, à travers l'évangile selon Marc. Et nous sommes dans le chapitre 10. Et la dernière fois, j'ai évoqué avec vous, nous avons évoqué ensemble Marc 10 et l'histoire de l'enfant où le Seigneur, il a dit à l'Église, enfin à ses disciples, il faut qu'on soit comme des enfants, accueillir la foi comme des enfants. Et bien, je vais continuer aujourd'hui en évoquant la situation qui suit tout de suite après. C'est le riche et, qui était sérieux, sincère, il s'est même agenouillé devant le Seigneur. Il appliquait la loi, il lui a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, hériter le royaume de Dieu. Mais il avait tout abandonné, sauf la priorité de son cœur, la richesse. Et la Bible nous dit, il est parti tout triste. L'enfant a eu le royaume de Dieu et le riche est parti sans. Et pourtant, il est sérieux. Il est comme nous, hein. Il vient le dimanche à l'église, il lit sa Bible, tout ça. Mais il est parti tout triste. Ça peut être notre cas à nous aussi. Ce n'est pas une garantie le fait de venir le dimanche. C'est l'état de notre cœur. Mais pour que nous puissions évoquer ensemble, parce que pour moi, il y a un lien entre l'enfant et le riche, nous allons lire. Ensemble, je vais demander à Zach de venir nous lire le texte. Et comme on a dit ce matin qu'on ne lit pas assez la parole de Dieu, eh bien c'est l'occasion de rattraper le temps. Nous allons lire ensemble Marc 10, versets 13 jusqu'à 27. Donc 13 jusqu'à 27.
On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de tout ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.
Voilà notre passage dans la méditation. Je l'ai divisé en deux parce que c'était tellement long. La dernière fois, dimanche dernier, dimanche d'avant, la dernière fois, nous avons évoqué l'enfant. Nous sommes appelés à croire, à recevoir le Seigneur comme des petits-enfants. À première vue, si je me base sur la logique humaine, tous les chrétiens doivent être pauvres. Oui, la logique humaine, c'est terrible ça. Ben oui, parce qu'il est difficile pour le riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il vaut mieux être pauvre, non? Jamais le Seigneur n'a dit ça. La société est société parce qu'il y a diversité. Il y a pauvres, il y a des riches, il y a des gens en bonne santé, il y a des malades, il y a des enfants, tous. Mais le Seigneur évoque ici surtout l'état du cœur, c'est ce que nous allons évoquer ensemble. Donc ce n'est pas une méditation théologique que j'ai essayé de préparer, mais quelque chose de pratique qui s'adresse à chacun de nous et moi le premier. Où est mon cœur? Il est où mon cœur? Mais je ne peux pas m'empêcher de commencer d'abord par rappeler la position de l'Église. Dans un monde en effervescence, où chaque chrétien, nous passons notre temps à regarder les informations, on nous pousse à prendre des positions. Le mal et le bien. Et on doit se positionner. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne peux être là ou là. On oublie que le chrétien est attaché à l'arbre de vie, et l'arbre de vie considère l'arbre du bien et du mal comme quelque chose qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est humaine, elle mène qu'aux catastrophes. L'Église, et je le rappelle encore une fois, l'Église doit avoir une position de paix et d'amour. Le monde ne le comprend pas, c'est le prix à payer. Le Seigneur avait la capacité de descendre de la croix, de porter son jugement. Il ne l'a pas fait. Il a accepté la souffrance jusqu'à la mort, mes frères et sœurs. Alors comment l'Église peut justifier l'injustifiable? Il n'est pas question de supporter qui que ce soit. La guerre, d'où elle vient, de n'importe quel côté, est à dénoncer par l'Église, parce que l'Église est une Église de paix et d'amour. Et si le monde nous pousse à nous positionner, nous le rappelons, l'amour et la paix. Évitons les débats. Même toutes les religions sont en train d'expliquer la situation par des sujets eschatologiques. Chrétiens, musulmans, juifs, tout ce que vous voulez, sont en train de justifier l'injustifiable. Mes frères et sœurs, c'est le prix à payer. Porter sa croix, ça commence d'abord par tenir ce langage de paix. J'aime mes amis, j'aime mes ennemis, j'aime la création du monde et je ne justifie pas la guerre. Et les discussions mènent toujours à nous obliger à nous positionner entre le bien et le mal. Et chacun définit son bien, chacun définit son mal. L'Église a un prix à payer. Et ce prix, Jésus l'a déjà payé. Donc à nous, en tant qu'Église, nous apportons la paix et l'amour dans notre vie, dans notre langage, dans nos pensées. Et c'est le prix à payer. Et là, je suis en train de parler du royaume de Dieu. Et nous serons confrontés en tant qu'Église à prendre position. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et tout cela, c'est paix et amour. Étienne, le premier martyr de l'Église, pendant qu'on le lapidait, et les gens qui le lapidaient avaient certainement raison d'après eux. D'après eux, ce qu'il faisait était bien. L'apôtre Paul persécutait l'Église. Pour lui, c'était bien. Et pourtant, pendant qu'on le lapidait, il regardait le ciel et il voyait le ciel ouvert. Et vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors si mes frères et sœurs l'Église commencent à avoir tenir un autre langage que celui-là, n'oublions pas, il est question d'éternité pour l'Église, et nous rendrons des comptes devant le Seigneur. Alors payons le prix ensemble. Je voulais vraiment tenir ce langage-là devant l'Église, parce qu'il est de la responsabilité de l'Église. Il n'est pas question politique, il n'est pas question... Non, c'est question d'amour et de paix, positionnement en Christ, et que le Seigneur guide toutes choses, il est souverain, il prend contrôle de toutes choses, et nous y croyons. Et certainement, c'est un rapport avec le message que j'ai préparé, que cet échange n'était pas prévu, mais on y est. Donc, Christelle, tu as évoqué l'argent, la richesse, tout ça. Dieu permet dans la vie qu'il y ait des moyens pour vivre. On peut devenir riche. Pourquoi? Mais bien sûr, pourquoi pas? Le Seigneur ne dénonce pas ça. Mais seulement la position dans notre cœur. Est-ce que c'est la richesse qui devient le maître ou est-ce que c'est lui? C'est plutôt cela qu'il est question. Nous avons devant nous ce passage que Zach a lu. Nous avons une histoire concernant un enfant et un adulte sincère. Deux scènes se succèdent, deux rencontres avec Jésus, deux attitudes, deux issues radicalement différentes. D'un côté, des enfants que l'emmène à Jésus. Ils ne parlent pas, ils ne font rien, ils exécutent, ils ne demandent rien. Et pourtant, ils sont accueillis, pris dans les bras du Seigneur, et ils sont bénis. De l'autre, un homme sincère, un homme riche, un homme honnête, un homme religieux, il court vers Jésus, il court, il le cherche. Il s'agenouille devant lui. Il lui pose une question profonde. Que dois-je faire, Seigneur, pour hériter la vie éternelle? Comme vous voyez, c'est un homme sincère. À l'inverse de l'enfant qui était accueilli dans les bras, béni, heureux, il nous dit que cet homme est parti tout triste. Deux personnes viennent à Jésus, mais une seule entre dans la logique du royaume de Dieu. Une seule accueille le royaume de Dieu. Une seule répond à la définition de la réception du royaume de Dieu. Et cela nous pose une question essentielle, à titre individuel et à titre collectif en tant qu'Église. Comment entre-t-on dans le royaume de Dieu? C'est ça la question. Et je rappelle que le royaume de Dieu, c'est tout simplement le lieu où règne un roi. Et le roi, c'est qui? C'est Jésus. Il règne dans quel royaume? En nous, dans l'Église, à titre collectif et dans nos cœurs. C'est ça le royaume de Dieu, tout simplement. C'est le royaume de Dieu, c'est le lieu où Jésus règne dans ma vie. C'est-à-dire, je me lève le matin, 24 heures sur 24, il règne en moi par son esprit. C'est tout simplement cela, le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est le futur. Non, non, c'est le présent. C'est ça, le royaume de Dieu. Dans notre passage, des parents emmènent leurs enfants à Jésus. Mais les disciples les repoussent. Pourquoi ils les repoussent? Les disciples, ils pensaient avoir raison. Même nous, certainement, on va les défendre. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a de mal que de penser à la tranquillité du Seigneur? On veut que le Seigneur soit tranquille. Et en plus, les enfants, ils n'ont qu'à aller jouer ailleurs, non? Oui, ils pensaient bien. Et pourtant, ils étaient à côté de la plaque, spirituellement parlant. Ils pensent bien faire. Ils veulent organiser, filtrer, protéger, théologiser, même faire partie à la théologie, créer des règles pour dire que voilà, nous sommes une église évangélique, nous sommes baptistes, nous sommes protestants, nous sommes catholiques. Oui, et à travers ces règles, nous filtrons. On fait comme les disciples au point de refuser des enfants. En réalité, les disciples sont devenus un obstacle. Par leur attitude et leur façon humaine de voir les choses. Jésus nous dit, le passage nous dit, Jésus s'indigne. Vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est pas qu'il n'était pas content, il est complètement indigné. Mais je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous faites? S'indigne, il dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Frères et sœurs, cette parole est forte. Je la reçois dans mon cœur comme un avertissement personnel. Personne ne doit être empêché de venir à Jésus. Et surtout, quand je mets ma logique pour filtrer. Et j'en ai commis des erreurs. J'en ai commis tellement. Et j'avais tellement raison. Et j'utilisais la Bible. Et je convainc tout le monde pour rejeter des frères et sœurs. J'ai fait comme les disciples. J'étais à côté de la plaque. Ni par nos traditions, ni par nos exigences, ni par nos jugements, nous devons refuser qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour refuser des créations, des créatures de Dieu. Puis Jésus ajoute, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi les enfants? Eh bien, parce qu'un enfant dépend de ses parents. Un enfant bien éduqué écoute ses parents. Et les parents l'aiment. Il y a l'amour dans la relation. Les enfants font confiance. Les enfants aiment recevoir. Je ne parle même pas de Noël. Ils ne cherchent pas à mériter. Ils ne cherchent pas à comprendre parfaitement. D'ailleurs, quand on parle trop, ils nous disent « Oh, ça c'est bon, ça me prend la tête. » Simplicité. Ils ne cherchent pas à contrôler. Tout simplement, ils reçoivent. Et Jésus les prend dans ses bras. Il dit « Moi, c'est cela que je cherche. » Quelle image ! Le Fils de Dieu, le Seigneur de l'univers, prend un enfant dans ses bras. Cela nous montre une vérité profonde. Le salut ne se conquiert pas. Il se reçoit, tout simplement. Puis la scène change. Un homme court vers le Seigneur, s'agenouille. Il est sérieux. Il est respectueux. Il est sincère. Il se met à genoux et dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Frères et sœurs, cette question est importante. Mais elle révèle aussi un problème. Elle est importante, c'est surtout qu'elle révèle un problème. Cet homme est encore dans une logique humaine de performance. Que dois-je faire? Comme si le salut pouvait s'obtenir par des efforts. Comme si la vie éternelle s'obtient par les préceptes d'une religion, bonne soit-elle. Jésus lui rappelle les commandements de toute religion. Et l'homme répond, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Hop, allez, on ira tous au paradis. Je respecte tout ça. Un autre personnage de la Bible dit même à Jésus, je donne une partie de ma richesse, j'aide. Et pourtant le Seigneur lui avait dit aussi, il faut naître de nouveau. Extérieurement, tout va bien. Mais Jésus va aller plus loin. Le texte dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Avec le Seigneur, c'est toujours l'amour qui commence. C'est toujours une relation de paix et d'amour. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et je voudrais bien m'arrêter là-dessus. D'abord, Jésus aime. Après, il agit. C'est le message que je dis tout à l'heure par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'amour, la paix. Après, on discute. Mais jamais l'inverse. Avant de corriger, Jésus aime. Avant de révéler le problème, Jésus aime. Est-ce que c'est le cas de chacun de nous, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on commence d'abord par l'amour? L'amour bannit la crainte. L'amour apporte la paix. L'amour casse beaucoup de barrières. L'amour fait en sorte qu'on vit en communion. L'amour, c'est qu'on ne rejette personne. L'amour, qu'on ne juge personne. L'amour, ça veut dire que Dieu seul est juge. Mais moi, que je suis gracié, je ne peux pas juger les autres. Mais cet amour ne va pas flatter l'homme, voyez. Il va dire la vérité. Jésus lui dit, il te manque une chose. Va avant tout, puis viens et suis-moi. Et là, j'insiste à travers l'histoire, comme vous savez, j'aime beaucoup l'histoire. À travers l'histoire de l'Église, on a utilisé même ce passage pour enrichir l'Église. On disait aux gens, aux chrétiens, vous êtes riches, donnez la moitié à l'Église, à la lettre. Alors que le Seigneur ne voulait pas dire ça, du tout. Jésus lui dit, il te manque une chose, va, vends tout, puis viens et suis-moi. Le problème n'est pas extérieur, c'est le problème du cœur. Et ça, aucune religion ne peut y répondre. C'est le problème du cœur. Où est ton cœur, mon frère? Où est ton cœur, ma sœur? Où est mon cœur vis-à-vis du Seigneur? Quand on reçoit le Seigneur, on reçoit un Seigneur crucifié, mort et ressuscité. Pas seulement ressuscité. Mort aussi. Qui démort, il y a un renoncement. Cet homme n'est pas mauvais. Il est sincère. Il est religieux. Il peut être comme nous. Chacun de nous. Mais il est attaché à ses richesses. Voilà le problème, oui. Ses richesses sont devenues sa sécurité. Ses richesses sont devenues son identité. Ses richesses sont devenues sa confiance. Dieu peut utiliser le riche et sa richesse pour l'œuvre divine. Mais cette richesse est devenue un obstacle. Et là, je vous pose une question, frère, c'est très simple à constater. Regardez le monde où nous sommes. Pourquoi dans des pays pauvres, ou soi-disant pauvres, il est plus facile de recevoir la bonne nouvelle que dans les pays occidentaux? Pourquoi les églises se vident en Occident? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin du Seigneur. Tout va bien. Parlez du Seigneur autour de vous. Dans la ville, au travail, on se moquera de vous. On dira, mais j'ai pas besoin. De quoi on parle? Tout va bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien je vais toucher à la retraite. Ou plutôt, combien j'ai mon salaire. Ma maison, mes voyages, mes vacances, tout ce que vous voulez. Mais je n'ai pas besoin du Seigneur. Et regardez maintenant dans les pays où soi-disant pauvres, la bonne nouvelle est reçue avec une telle simplicité que la question ne se pose même pas. C'est une question à nous poser. De ce qu'on entend, on parle de pays riches, occidentaux, tout ce qu'on veut, la liberté. Je me demande, la liberté, c'est plutôt l'esclavage. Parce que l'Occident vit dans la séduction. Et c'est ce qu'il a dit, cet orthodoxe, quand il est venu en France. Et quand on lui a dit, et je le répète encore une fois, « Mon frère, nous prions pour vous parce que vous êtes dans la persécution. » Il leur a répondu, « Nous, on prie pour vous parce que vous êtes dans la séduction. » La persécution, on se maintient en Christ. La séduction vous éloigne du Seigneur. Vous voyez, la richesse, ce n'est pas question d'argent. C'est question de bien-être et de priorité. Le texte dit, il s'en alla tout triste. Quelle tragédie. Il était tout proche. Il a rencontré Jésus. Il a été aimé. Il a entendu la vérité. Mais il repart tout triste. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lâcher ce qu'il a rendu priorité dans sa vie. Frères et sœurs, voici une vérité importante, en tout cas pour moi. La sincérité peut nous amener jusqu'à Jésus, mais elle ne suffit pas pour le suivre. Regardez le contraste. L'enfant n'a rien, il reçoit tout. L'homme riche qui pense avoir tout, il part sans rien. L'enfant, il dépend, il reçoit, il est libre. L'homme riche, il possède, il retient, mais il est prisonnier de sa richesse. Le problème n'est pas la richesse en elle-même, le problème c'est ce qui tient notre cœur. Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume. Expression clé. Qui se confie dans les richesses? Où elle est notre confiance? Dieu, s'il permet que nous ayons des richesses, eh bien, très bien. Mais si nous mettons notre confiance dans les richesses, c'est qu'on déplace le curseur de Jésus vers les richesses. Là, ça devient malheureux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, mais il est question de priorité et de positionnement du cœur. Les disciples sont choqués. Mais alors, qui peut être sauvé? Et Jésus de répondre, cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. C'est fondamental. Le salut est impossible par les hommes. Les religions ne sauvent pas, mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait rentrer dans la vie éternelle. La religion ne peut pas nous sauver, les pratiques ne peuvent pas les sauver. Nous ne sommes pas sauvés, ou avoir la vie, si vous voulez, par les œuvres, par la religion ou par la morale. Jésus ajoute, mais tout est possible à Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fait et Dieu l'a fait. C'est cela la grâce. Dieu pardonne. Dieu transforme. Dieu libère. C'est cela la grâce. C'est une grâce active. Mais c'est un côté de la pièce. L'autre pièce, c'est qu'il m'a donné la liberté d'accueillir et d'accepter. Et c'est là notre responsabilité. Il nous laisse libres de choisir. Jésus dit, suis-moi. Mais qu'il dit suis-moi, c'est qu'il attend une réponse, non? Il n'a pas dit suis-moi, je vais tout pour toi, non. Suis-moi, moi je t'offre toute la grâce. J'ai payé le prix pour toi, tout est gratuit, tout ce que... Mais maintenant, suis-moi. Décide de me suivre. Suivre Jésus, ça coûte. Ce n'est pas gratuit. Ça coûte. Ça implique renoncer, lâcher, mourir à soi-même et déplacer le curseur des priorités. c'est tout simplement le message de la croix. La croix n'est pas seulement un événement historique, mes frères et sœurs. C'est un chemin spirituel. Mourir à son orgueil, mourir à ses sécurités, mourir à son indépendance. Tout cela pour entrer dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Frères et sœurs, deux personnes viennent à Jésus. Sommes-nous l'enfant ou l'adulte? C'est très important. Un enfant qui reçoit, un homme riche qui repart triste. La différence, c'est le cœur. L'enfant entre dans le royaume parce qu'il n'a rien à défendre. L'homme riche reste dehors parce qu'il a trop à garder. Aujourd'hui, Jésus nous regarde. Il nous aime. Ça, c'est d'abord ça. Il nous aime et il nous appelle. Viens, suis-moi. À chacun de nous, il nous dit la même chose. Je vous aime, je t'aime. Viens et suis-moi. La question n'est plus que dois-je faire, mais qu'est-ce que je suis prêt à lâcher pour recevoir la grâce? Oh, nous sommes prêts à lâcher beaucoup de choses. On veut même le montrer. Des choses très simples. Seigneur, j'ai arrêté de mentir. Seigneur, j'ai arrêté de voler. Seigneur, j'ai arrêté de... Mais le Seigneur, par son Esprit Saint, il va dans les petites choses. Que pour nous, ce sont des priorités. Et c'est celle-là qui met le doigt dessus. Et ça, tu es prêt à lâcher? Et tant qu'on n'a pas lâché cette petite chose que l'Esprit nous montre, on restera au niveau de cet adulte, de cet homme sincère qui est parti tout triste. Que le Seigneur nous donne un cœur d'enfant, nous libère de nos attachements, nous apprenne à recevoir sa grâce et nous conduit sur le chemin de la croix pour entrer pleinement dans son royaume. Que le Seigneur nous aide. Amen.